dans l'actualité des idées aujourd'hui, femme artiste, femme actrice, comment se refaire une place dans l'histoire, mais aussi dans le milieu, avec notre invitée, la philosophe Geneviève Fraisse, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure précédemment du Consentement, paru au Seuil, revue et augmentée en 2017, pour laquelle on la recevait d'ailleurs autour de cette grande table, puis La sexuation du monde, réflexion sur l'émancipation. Le 9 janvier dernier, paraissait directement au format poche dans la collection Folio Essai, Féminisme et philosophie, un recueil inédit de ses textes, de ses concepts autour de la question du sexe, de la différence entre les sexes. Et à la rentrée dernière, la suite de l'histoire, actrice, créatrice au Seuil, sur l'émancipation des femmes artistes à travers l'histoire, leur dernière conquête entre visibilité sociale et liberté de créer. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Le mot d'abord, un mot d'abord de l'actualité, elle est conséquente en ce moment sur la question des femmes, de la relation aussi entre les hommes et les femmes, avec le verdict hier du procès Weinstein. Il est tombé. Le producteur de cinéma, Harvey Weinstein, a été jugé coupable d'agression sexuelle et de viol, mais les accusations de comportement sexuel prédateur pour lesquelles il risquait la perpétuité n'ont pas été retenues.
Les uns après les autres, les membres de la cour quittent la salle d'audience. Car après 5 jours de délibération, le jury est finalement parvenu à une décision à l'unanimité. Harvey Weinstein est reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol.
Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont manifestées courageusement et qui couraient de grands risques ont rendu cela possible. Weinstein est un prédateur sexuel en série, vicieux, qui a utilisé son pouvoir pour menacer, violer, agresser, tromper, humilier et faire taire les victimes.
Le procureur le qualifie de prédateur. Officiellement, ce terme a pourtant été écarté. Harvey Weinstein a été disculpé de cette circonstance aggravante qui aurait pu lui valoir la prison à perpétuité. Sa peine sera prononcée le 11 mars. D'ici là, il restera derrière les barreaux. Son avocate, elle, a déjà annoncé son intention de faire appel.
On vous avait reçu, Geneviève Fraisse, au moment de la séquence MeToo, en tout cas du début de ce mouvement. Vous parliez d'un moment historique pour les femmes. Ce procès, Weinstein, dont le verdict a été rendu hier par le jury de Manhattan, est-ce qu'il fera date pour vous ?
On peut parler de date, comme j'avais parlé d'événements en 2017-2018, mais on peut tout simplement dire aussi que l'histoire est en train de s'écrire. Et pour la question sexe, genre, etc., qui est souvent atemporelle, hors du temps, renvoyée à des questions morales, là, on voit que l'histoire est en train de continuer à s'écrire depuis l'événement. Alors, c'est une date à l'intérieur de l'histoire, mais c'est surtout la continuité ou le développement de l'histoire que je vois. Et la distinction entre le crime et la prédation me paraît cruciale. Même si elle n'a pas été entendue complètement puisque on ne l'a pas reconnue prédateur. Néanmoins, là, la prédation, c'est quand on organise. Et à ce propos, je vous rappelle que Jeffrey Epstein, lui, il avait organisé la prédation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. David Hamilton, en 2016, donc avant, il avait lui aussi organisé la prédation, d'après celles qui ont porté plainte.
Le photographe
de ma jeunesse. Et il s'est lui aussi suicidé. Donc c'est intéressant de voir que le suicide de ceux qui avaient clairement organisé un système prédateur, ils n'ont trouvé que cette issue dans leur vie. Ils ne pouvaient même pas passer en procès. Moi, c'est comme ça que je le lis. Là, lui, passe en procès.
Voilà, ces deux affaires que vous venez d'évoquer, la justice n'avait pas non plus, n'était pas passée.
Enfin,
là,
il était quand même aussi... en prison, Jeffrey.
Voilà. La première, oui. Ici, c'est qu'on a un procès.
Alors, effectivement, moi, je me situe moins du point de vue de la justice que du point de vue de l'écriture de l'histoire, là où elle commence à vraiment préciser les distinctions. Alors, on peut regretter hier qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout. Et en même temps, c'est ce qui me permet aujourd'hui, ce qui nous permet de développer les différentes possibilités qui vont s'ouvrir. On peut parler de crime, on peut parler de prédation. De la même façon, grâce à Delanel, on a pu parler de justice, mais en même temps d'espace public, où les choses peuvent être dites sans passer par la justice. En tout cas, sa déclaration avait été faite en ce sens, non pas pour rejeter la justice, mais pour multiplier les possibilités. Moi, je l'avais vu comme quelque chose de très positif. On l'a critiqué à tort, à mon avis. Donc, c'est pour ça que chaque fois, là, ce que je vois depuis 2 ans, c'est la précision des choses qui avance, donc la multiplication des regards qu'on peut porter sur ce qu'on doit bien appeler la mise à disposition du corps des femmes dans nos sociétés.
Ça reste le procès d'un homme, et ça, il faut pas l'oublier.
Pardon.
Mais c'est à ce titre aussi un procès exemplaire dans la période aussi dans laquelle il s'inscrit. Vous évoquez cette histoire qui est en train de s'écrire et c'est vrai que le moment est particulier, le moment où une parole se libère, le moment où la justice entend cette parole-là aussi. Vous diriez que les structures de la différence des sexes que vous avez, que vous étudiez depuis longtemps, Geneviève Fraisse, sont toujours aussi solides ou est-ce qu'elles commencent à se fragiliser jusque dans leur fondation, que c'est pas simplement la relation entre les hommes et les femmes qui est en train de changer en profondeur, mais aussi les structures?
Ah oui, non, c'est une question de structure, c'est bien évident. Et c'est pour ça que dans le livre que vous venez de citer, qui est paru chez Gallimard, Féminisme et philosophie, j'ai toute une partie qui s'appelle corps collectif. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron l'année dernière, qui est que chaque femme devait aller porter plainte, 1+1+1+1, hein, chacune a un petit problème avec ça, donc elle y va. C'est autre chose qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai tendance à moins regarder la question du procès que de voir l'évolution historique de la chose. Ça me paraît plus subversif, si vous voulez, que de regarder uniquement le procès. Et c'est un corps collectif, c'est-à-dire que les femmes, non seulement elles disent nous, comme on a dit nous dans le mouvement de libération des femmes et de ces belles années, qui est encore dit aujourd'hui avec le nous toutes, qui fait partie de notre paysage idéologique et politique, mais aussi le fait que c'est le corps des femmes en général, donc c'est ce que j'appelle, moi, un corps collectif. Quand les femmes n'ont pas ont eu la parole libérée, je vous reprends parce que c'est une de mes maraudes depuis 2 ans, mais qu'elles ont pris la parole, elles peuvent le prendre à plusieurs, et à partir d'éléments factuels, à savoir leur capacité à être économiquement capable de le faire. C'est toute la grande différence avec les féminicides. C'est que dans les féminicides, les femmes n'ont pas les moyens économiques de se défendre ou de fuir. Elles ont les moyens même d'alerter sur ce qui se passe. Et ça, c'est effectivement, historiquement, fondamental.
On l'évoquait dans la première partie de la Grande Table avec nos invités, Pascal Rogard et de la SACD, et la productrice Sandrine Brouwer du collectif 50-50 pour 2020 dans le cinéma, l'affaire Adèle Haenel, qui s'est dite victime donc d'agression sexuelle par un réalisateur et qui aujourd'hui prend la parole alors qu'elle a porté plainte dans un journal américain et qui estime que l'impact de MeToo en France n'a pas été aussi important qu'on aurait pu l'imaginer. Elle dit dans les colonnes du New York Times, il y a un paradoxe MeToo en France, c'est l'un des pays où le mouvement a été le plus suivi du point de vue des réseaux sociaux, mais d'un point de vue politique et médiatique, la France a complètement raté le coche. Vous êtes d'accord avec elle?
Oui, enfin, je suis d'accord, je vais le dire autrement. Ce qui était frappant en France, c'est...
Une spécificité française?
Oui, alors, bien sûr. Mais comme il y a des spécificités dans plusieurs pays, j'ai été confrontée à des interpellations ou des entretiens dans d'autres pays qu'en France. Bien sûr qu'il y a des variantes suivant les pays. Mais première chose, la vague MeToo, pour appeler ça une sorte de tsunami même, traverse des frontières. Lesquelles? Pas toujours celles qu'on attend. Il y a des variantes, c'est très intéressant par rapport à la question de la mondialisation, voire de l'impérialisme, c'est que ça traverse les frontières de manière étrange. Ça, c'est une première chose, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Mais pour revenir à la France en particulier, bien sûr, il y a eu d'énormes discussions. Moi, j'ai été extrêmement concernée et confrontée à tout cela pendant toute l'année 2017-2018, mais en revanche, personne ne tombait. Et nous l'avons dit, nous avons été plusieurs à le dire. Les hommes ne tombent pas. Et d'ailleurs, regardez les derniers procès individuels. L'interlocuteur de Balance ton porc a gagné. Luc Besson, ça va peut-être revenir, mais pour le moment, il avait quand même été blanchi. L'homme politique Jox également, etc. On a eu comme ça, les femmes se sont retrouvées victimes de ce qu'elles avaient dénoncé. C'est quand même intéressant. Donc, il y avait une sorte de désespoir. Ce qui est en train complètement de changer, depuis cet automne et cet hiver, c'est que précisément les hommes tombent. Regardez ce qui s'est passé pour la Fédération du patinage artistique, où quand même après qu'il ait dit que, écoutez, je crois ne pas me tromper, il a quand même réussi à dire, ce président de fédération, que les femmes bavaient dans les médias, Hein, on est des hystériques qui bavent. C'est quand même impressionnant d'en être encore là en France. Bon, mais il tombe. Gabriel Matzneff, dont je dis au passage que ma génération s'est battue, mais nous étions minoritaires et perdantes. Mais dans les années 70, il ne faut pas croire qu'on pouvait être dans la libération sexuelle et en même temps ne pas être d'accord avec les propos de Gabriel Matzneff. On a tendance là à simplifier les choses, à dire que tout le monde... Pas du tout. Les féministes, on est toutes là à dire, on se souvient qu'on disait, bah alors ils veulent violer les petites filles, etc. Ça, je referme la parenthèse. Mais donc on voit que les hommes aujourd'hui, en France, sont amenés quand même à être mis en cause. Ce qui est un petit retournement, et donc je souscrirai à ce qu'a dit Adèle Hanel, mais en le disant un peu autrement, c'est-à-dire de voir qu'il se passe entre la père Matzneff, même le réalisateur. Donc je dirais au passage qu'il a quand même dit qu'il voulait être son Pygmalion. Ça nous permettrait peut-être de parler des œuvres aussi. Hein. Il voulait être le Pygmalion d'Adèle Hanel, donc il voulait animer quelque chose de ce corps qui lui appartenait. C'est quand même intéressant, cette remarque pour parler de l'homme et de l'œuvre, hein, au passage. Mais, voilà, mais donc les choses changent. Les choses changent et ce qui se passe dans le sport est absolument fondamental.
Voilà, est-ce que le changement viendra du sport, là où on l'attendait du milieu du cinéma, d'où tout est parti, et une fois encore on revient à Harvey Weinstein. Si un homme doit tomber dans le secteur, le milieu du cinéma, ça doit être Roman Polanski. C'est lui qui est aujourd'hui, une fois encore, sous les feux des projecteurs, notamment avec ses 12 nominations pour son film J'accuse au César vendredi prochain.
Combien de plaintes de femmes? On met les chiffres côte à côte? Non, mais bon. L'affaire Weinstein, l'affaire Polanski est quand même très ancienne. Et c'est ça aussi qui rend... la plainte, elle existe depuis très longtemps. Et ce qui moi m'intéresse, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je trouve qu'on est extrêmement superficiel dans la question de l'homme et de l'œuvre. Extrêmement superficiel, on se dit, il faut superposer, alors l'homme est méchant. Alors moi, il faut rentrer dans les contenus des œuvres, d'une part. C'est une fusée à plusieurs étages, l'histoire de la question de l'homme et de l'œuvre.
Ah, vous distinguez pas les deux.
Attendez, je vous ai pas encore développé ce que je veux dire. C'est pas la question. Je pose la question qui a été posée parce qu'elle a été résolue en disant l'homme. Mais attendez, d'abord on remonte à Platon, si vous voulez bien. On commence par le banquet. Hein, c'est quand même, c'est assez ancien. Mais la question du double éros, du désir de l'autre et du désir de la création. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le banquet de Platon que les deux existent et se croisent. Donc on fait comme si aujourd'hui on est quand même dans une platitude extrême, je trouve, dans les questions qu'on pose. Parce que séparer les... Moi, je vais pas les rejoindre tout de suite et dire c'est affreux. Je suis en train de vous dire comment on peut construire ça. Alors comment on peut construire ce croisement entre le double éros chez tout le monde? C'est pour ça que je prenais l'exemple d'un réalisateur qui veut être un Pygmalion. Ça veut bien dire que son rapport au corps de cette jeune fille de 12 ans, hein, puisqu'elle rappelle dans cet article du New York Times qu'elle a 12 ans, jusqu'à en faire un corps animé, donc une statue animée, là c'est quand même très intéressant. Personne n'a vraiment commenté ce terme. Moi, il me paraît crucial pour le rapport de l'homme et l'œuvre. On est bien dans la double chose. Et puis ne parlons pas de l'affaire Matzneff où là carrément l'homme est dans l'œuvre. Ça c'est trop simple et c'est peut-être pas de la bonne littérature du coup. Mmh. Alors c'est plus compliqué que ça, on va pas mettre l'homme dans l'œuvre. On va voir que les choses se croisent. Et je vais vous prendre un exemple. Alors l'exemple de J'accuse, il a été souligné par l'historien Vincent Duclerc en disant le rôle qu'on donne à Picard, au colonel Picard, est étrange. Et pourquoi c'est étrange? Parce que ça enlève une part de la subversion qui vient de l'extérieur du milieu de l'armée, ça le met dans l'armée, le fait qu'un militaire puisse se poser des questions sur l'injustice de cette situation. Ça veut dire quoi, si moi je fais de la lecture? Ça veut dire que de l'intérieur du système, on peut améliorer le système, ou en tout cas, faire la justice. Donc, pour quelqu'un qui a dit, dans les dossiers de presse, qu'il s'identifiait à J'accuse, d'ailleurs, comme Ramadan, d'ailleurs, hein, au capitaine Dreyfus, voilà que, on sauve le capitaine Dreyfus de l'intérieur de l'institution qu'il a dominée et qui lui a fait du mal. C'est intéressant par rapport à la domination masculine, vous trouvez pas? Moi, ça m'intéresse énormément. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que c'est un plaidoyer pour l'institution dominante. Première chose. Mais moi, je préfère aller voir le film Tess, Polanski, 1979, 2 ans après le viol qui a été reconnu, 4 ans après celle qui vient de se plaindre d'un viol de 1975. Que dit ce film? Il faut le voir, Tess, c'est sur le viol. C'est le viol d'une jeune femme pauvre qui va être violée par un hobereau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le film ? Elle va être obligée à un moment, elle a une histoire d'amour mais ça marche pas parce qu'elle avoue ce viol et du coup l'homme s'en va, puis elle reviendra ensuite, et puis elle est obligée de se mettre en ménage avec son violeur parce qu'il a de l'argent et qu'il faut qu'elle sauve sa famille de la pauvreté. Puis finalement elle l'assassine. Et moi ça commence à m'intéresser énormément, qu'est-ce qui se passe après l'assassinat de cet homme ? Elle s'enfuit avec son amant, son amour, et puis elle est arrêtée, et puis elle sera pendue. Double peine, un je suis violée, deux je suis pendue. Faut regarder ce film. C'est ce film qui nous parlera aussi du croisement entre l'homme et l'œuvre. Non pas qu'il faut chercher un message, surtout pas. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Un message où il sauverait quelque chose, mais en même, ou bien il accablerait la femme. Bon, l'homme, d'accord, il a été tué. Mais enfin, elle passe en procès. Elle n'est pas, contrairement à ce qui pourrait se passer aujourd'hui, elle n'est pas lavée du crime, mais elle est pendue. Donc, regardons ce viol d'Antès, 1979.
Avec un peu le risque quand même de psychanalyser les hommes en mettant leurs films sur les divans.
Je psychanalyse rien du tout. Je psychanalyse rien du tout. J'ai pas. Oh là là, mais j'ai pas besoin de la psychanalyse. Ce qui m'intéresse, c'est seulement de voir ce qu'il, comme où son œuvre va, que fait son œuvre. Ah non, c'est de la littérature. C'est pas de la psychanalyse. C'est du regard, tout simplement. Je ne psychanalyse rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il est à un endroit quelque part dans ce film. Je suis juste en train de dire qu'il a écrit ce film, qu'il a réalisé ce film juste après des histoires de viol, juste au moment où il est accusé de viol, et que ce film parle du viol. Après, à vous, à moi, à tant d'autres, de lire ce qu'il a envie de lire dans ce film. Mais j'ai juste envie de dire que la question comment on croise l'homme et l'œuvre est bien intéressante.
Voilà, et puis
je n'ai pas de réponse.
Ouais, je précise juste que l'analogie entre l'affaire Dreyfus et lui, sa vie, c'est Roman Polanski lui-même qui le fait dans ce dossier de presse en répondant à la question. La question de Pascal Bruckner.
Mais surtout, ce que je vois, c'est que moi, il donne le beau rôle à celui qui est dans l'institution qui a fait du mal, à Dreyfus. Et ça, je trouve que ça veut... Il n'y a pas de psychanalyse dans ça, il y a juste de l'analyse textuelle.
J'en reviens à votre livre, La suite de l'histoire. Les actrices aujourd'hui, les femmes artistes hier, elles ont, on le comprend, beaucoup de points communs aussi dans ces parcours, dans cette réappropriation de leur place dans leur art et dans l'histoire. Dans ce nouvel essai, vous dites avoir cherché à voir comment cette intégration des femmes dans l'art s'attaque à la question de fond, qui est pour vous celle de la symbolique masculine. En quoi est-ce la suite de l'histoire ?
Alors la suite de l'histoire, c'est parce que vous savez, moi je fais grâce à Michel Foucault, je fais de la provenance, donc je suis allée chercher Rousseau et Kant, quand, prévoyant que la démocratie arrive au galop, ils ont pas tort, vont écrire au milieu du XVIIIe siècle deux textes qui disent en gros, non, vous n'êtes pas des artistes, chacun à leur façon. Rousseau sait, vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas de génie, donc vous êtes hors de la question de la création artistique, quand Kant, lui, fait une hiérarchie entre le beau et le sublime. Nous, les femmes, vous et moi, nous avons accès au beau, mais les hommes, derrière la vitre, là, ont accès au sublime. Ne pas oublier cela. Donc, à suite de quoi, l'histoire peut s'écrire, surtout quand il y a une révolution française et le passage à la République dans un certain nombre de pays. Et c'est ça que je raconte, c'est comment l'histoire s'écrit. Après, vous touchez à la question fondamentale, qui est celle de l'accès au symbolique. Alors, je le dis à plusieurs reprises, d'autant que je n'ai rien à me reprocher, si je puis dire, de ce côté-là, c'est d'avoir voulu rendre visibles les femmes, alors qu'on les a invisibilisées dans l'histoire. Très bien. Or, ce qui se passe avec l'art, c'est plus que ça. Non seulement elles vont s'inscrire, si vous voulez, j'avais distingué dans La sexuation du monde, un livre antérieur, le pour toutes et le pour chacune. C'est les deux descendances de mon livre de Muse de la raison. Le pour toutes, c'est la citoyenneté, l'autonomie économique, l'emploi, etc. Et le pour chacune, c'est la possibilité que chacune puisse éventuellement devenir créatrice, philosophe, romancière, etc. Enfin, tout ce qui donne de la création. Et là, d'ailleurs, pour revenir à la discussion précédente, l'histoire, je la raconte là-dedans, comment elle s'écrit la suite, les femmes vont s'emparer de cela grâce aux moyens difficiles, délicats, mais en même temps quand même ouverts, de la question démocratique et républicaine. Donc je raconte un petit peu comment elles vont d'abord prendre la voix, comment ce sont des singularités, en même temps comment ce sont des pluriels, en même temps comment elles vont déplacer d'être objet de peinture à sujet peintre, etc. etc. Donc on n'aura pas le temps de le raconter ici, mais tout cela m'amène à dire que restituer leur visibilité est insuffisant, de la même façon qu'il est insuffisant qu'on veuille être inscrite dans l'histoire, être incluse et non plus excluse. Et ce dont parlent les Césars et cette institution qui est en train de s'effondrer, et je crois que beaucoup en sont contents. Donc c'est l'idée que ça va plus loin. L'art, plus, si vous voulez, que la parité, plus que l'égalité économique, va ébranler ce que j'appelle les représentations, c'est-à-dire ça fait du dérèglement des représentations. Donc ça va être, je mets ça en parallèle avec ce que le pour tout, c'est-à-dire la citoyenneté, par l'inclusion, arrive à un certain nombre de choses, mais maintenant, il faut dérégler, non pas dénormer, c'est de ce point de vue-là, je me sépare d'une forte tendance idéologique et théorique, qui est de la critique des normes et le changement de normes. Moi, je parle de dérèglement des représentations. Les représentations avaient été réglées, vous êtes des muses, vous n'êtes pas des génies, etc., etc.
Et ça, c'est ce partage imaginaire des rôles. Hein,
et si je peux,
mais il n'y a pas que ça. Le masculin et le féminin.
Si je peux rajouter une chose, avant que vous
m'appeliez. Je vais vous faire écouter juste le. Mais ça va compléter ce que vous dites. Le témoignage d'Agnette Messager, artiste d'aujourd'hui. Vous reprenez cette histoire du Moyen-Âge à maintenant. On l'écoute.
C'est plus les relations hommes-femmes qui m'ont intéressée au début. Et c'est pourquoi je me suis donné différentes identités. Mais je crois que c'est tellement plus compliqué que ça qu'il ne faut pas mettre ça dans des cases. Et ça me fait toujours peur. Et on a souvent tendance justement à mettre les femmes, et particulièrement les femmes artistes, dans des cases. Vous faites ceci. C'est-à-dire qu'il faut toujours se justifier. Puis, j'ai pas choisi d'être femme, et ça ne me déplaît pas. Mais c'est vrai que, les choses ont beaucoup évolué et vont encore évoluer. Et quand j'ai commencé dans les années 70, ça paraissait presque incompatible. Alors que j'avais pas été élevée dans cet esprit-là, et que pour moi, ça allait de soi. Si on a envie de faire de l'art, on en fait. Mais après, dans le milieu professionnel, c'était beaucoup plus difficile.
Geneviève Fraisse, quelles sont ces cases auxquelles fait référence l'artiste plasticienne Agnette Messager?
Alors, je vais vous parler de la suite de l'histoire. Agnette Messager, elle multiplie les possibles, de la même façon que Sidney Sherman. Ce sont des femmes, des contemporaines, alors là, pour le coup, on parlait de siècles auparavant, ce sont des contemporaines qui vont fabriquer, moi, ce que j'appelle le multiple. Il y a le un et le multiple. Et le multiple, il est ce qui permet, effectivement, d'échapper aux cases. Mais ce qu'elle dit pourrait être valable pour moi dans le domaine de la philosophie et de la recherche scientifique. Donc, qu'on soit ramené à sa position. Ce qui nous permettra de faire un lien avec notre discussion précédente sur l'homme et son œuvre. Nous, Nietzsche, qu'est-ce qu'il dit dans la seconde moitié du XIXe siècle, il dit les femmes, de toute façon, quand elles se mettent à écrire, elles n'écrivent que sur elles-mêmes. Elles s'expliquent sur leur propre compte. Ce que reprendra Virginia Woolf, c'est ça que je raconte aussi, en disant bientôt elles vont sortir de là et on va passer d'écrire sur soi à l'impersonnel et puis de l'impersonnel peut-être à l'universel. C'est ça qu'elle raconte et que je reprends dans ce livre. Donc on a, comme si elle répondait à Nietzsche, mais ça veut dire qu'on reproche aux femmes, et même encore aujourd'hui, de s'expliquer sur leur propre compte, donc de bien mélanger la femme et l'œuvre. C'est-à-dire que quand c'est les hommes, ça se mélange pas, mais quand c'est les femmes, c'est trop mélangé. Moi, c'est juste pour faire un peu d'ironie, quoi. Oui. Et voir un petit peu de profondeur, de champ, par rapport à une question que je trouve superficielle, profondément superficielle. Donc, la suite de l'histoire, elle est racontée magnifiquement par Virginia Woolf. Quand elle dit, elle-même, elle dit, les femmes écrivent d'abord dans la rage, dans la colère. Mais elles vont en sortir de cette colère, parce qu'elles vont avoir les moyens d'en sortir. Et on arrive à ce fameux multiple dont parle Agnette Messager, comme Cindy Sherman et comme quelques autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment elles vont user de leur corps.
Et vous le dites aussi à propos de Louise Bourgeois, hein, comment elle en revient à son enfance, de là où tout a commencé, pour écrire son histoire et pour pouvoir ensuite s'en émanciper, hein, pour pouvoir créer par elle-même. Vous lui adressez ce livre à Louise Bourgeois, la suite de l'histoire, actrice, créatrice qui paraît au seuil, Geneviève Fraisse. Pourquoi? Comment elle est exemplaire à vos yeux de ces femmes artistes qui ont su écrire, tracer leur lignée.
En prenant la fuite, elle est partie aux États-Unis. Alors, suivre son mari, comme on dit dans des biographies, ou, c'est pas exactement, elle dit, ou ça peut être autre chose. On peut lire les choses autrement, là encore, ne simplifions pas en superficialisant. Donc, Louise Bourgeois, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa fin de vie, c'est-à-dire la double exposition qui est à la fin de sa vie. D'une part, pas loin d'ici, à la Maison Balzac, son exposition sur Eugénie Grandet, qui est sa dernière exposition, où quand même elle va dire « je ressemble en rien à Eugénie Grandet ». Jeune femme enfermée donc dans la solitude domestique paternelle, parce qu'elle n'en sortira pas. Elle aurait pu être ça, mais elle n'a pas été ça. Et puis dans l'exposition des Papesses à Avignon, qui a lieu à peu près au même moment, enfin non, un peu, elle est morte après, à ce moment-là, où elle a suggéré de repartir de Camille Claudel. Camille Claudel, qui est l'exemple même de l'immense souffrance d'une femme artiste quand on a choisi d'être femme artiste, comme à la fin du 19e siècle, et elle finira plusieurs décennies quand même enfermée en psychiatrie. Ce qui est monstrueux, sans parler de toutes ces œuvres qui ont été détruites. Même si aujourd'hui, moi, il faut se souvenir que ma génération, mes 20 ans, nous ne connaissions pas Camille Claudel. Elle a été retrouvée à la fin des années 70. Moi, je me souviens très bien de sa découverte. Donc, elle prend les deux, c'est-à-dire celle qui a trop souffert, et elles toutes les deux ont trop souffert. Alors, elle a rien à voir avec Camille Claudel, elle a tout à voir avec Eugénie Grandet, mais elle n'est pas du tout à Eugénie Grandet. Et c'est quand même tout à fait extraordinaire, parce qu'elle pointe le point de souffrance, et en même temps, elle sait qu'elle en a complètement échappé, surtout à l'âge qu'elle a, quand elle fait ça, c'est-à-dire très âgée. Et ça m'intéressait parce que trop souvent, on raconte aussi l'histoire des femmes artistes par la souffrance. Et là, moi, je me suis détournée de cela pour finir à la fin du livre en parler à propos des traumas d'enfance et des violences. Et Nikita Saint-Phal, de ce point de vue-là, elle est géniale avec Mon secret. Elle l'écrit, elle le filme, comment elle a été violée et comment, en quoi les traumas d'enfance ont un rapport à la création. C'est une question aussi que je raconte, parce que les femmes de la fin du XXe siècle, elles ont quand même utilisé leur corps et leur sexe de manière artistique et esthétique.
Voilà, la souffrance et la jouissance, hein, cette histoire difficile à écrire, devenir des sujets artistiques à part entière, c'est aussi une histoire qui ne s'est pas faite sans douleur. On va écouter un témoignage encore assez actuel, celui de Madonna.
Je me souviens avoir fait les gros titres de tous les journaux et magazines. Et tout ce que je lisais à mon propos était insultant. J'étais traitée de pute, de sorcière. Un titre me comparait à Satan. J'ai pensé, attendez une minute, est-ce que Prince n'est pas en train de courir partout en résille, en talons, avec du rouge à lèvres et les fesses à l'air? Et oui, il le faisait. Mais c'était un homme. C'était la première fois que je comprenais vraiment que les femmes n'avaient pas la même liberté que les hommes. Je me sentais paralysée. Ça m'a pris du temps pour me relever et reprendre ma vie artistique, ma vie tout court. Je me souviens avoir regretté de ne pas avoir une femme modèle vers qui me tourner pour avoir du soutien.
Voilà, Madonna, artiste, chanteuse, qui a dû aussi se réapproprier son corps, hein, pour pouvoir s'émanciper du regard des autres. Vous évoquiez Cindy Sherman, Orlan, Frida Kahlo, beaucoup de femmes artistes qui ont travaillé sur leur propre corps pour pouvoir aussi se le réapproprier, leur histoire avec.
Hein. Ben c'est venu, si vous voulez, vous passez de modèle à artiste à la fin du 19e siècle. Hein, Suzanne Valadon est le meilleur exemple, hein, d'objet, de muse, etc. Elle devient peintre. Elle donne aussi naissance d'ailleurs à un peintre au passage. C'est pas inintéressant. Et puis, parce que l'engendrement, l'enfantement, ça c'est aussi une question que j'aborde. Parce qu'on a toujours dit aux femmes, Nietzsche le premier, out liberi, out libri, hein. Soit les enfants, soit les livres. Mais pas les deux en même temps. Donc, moi, j'ai traversé ces questions-là dans mon enfance ou dans ma jeunesse à l'envers. Mais quand même, puisque ma mère était à la fois intellectuelle et faisant des enfants. Mais c'était pas si simple. Donc l'affaire est encore à vif, et je l'ai vu chez des jeunes artistes aujourd'hui qui sont venus m'en parler. Ça, c'est enfantement-engendrement. Quant à se réapproprier son corps et en faire usage, elle le dit tout. D'ailleurs, elle commence par dire « mon corps est mon premier modèle ». Hein, vous êtes Frida Kahlo le dit, Esther Ferrer le dit, c'est assez intéressant. Puis de mon premier modèle, elles en font un lieu de production de l'art. Vous citiez Orlan, je cite à la fin Déborah de Robertis, on pourrait encore en citer d'autres. Ça, c'est important. Mais vous savez, en écoutant Madonna, je pensais à une autre américaine, je pensais à Marilyn Monroe, que je cite aussi dans ce livre, à cause de ses écrits. Parce que maintenant, si on lit les écrits de Marilyn Monroe, on se rend compte qu'elle se rendait bien plus compte qu'on ne croit de ce qu'elle était en train de vivre. Et là, elle fait partie, disons, je dirais, comme Camille Claudel, bien que ça n'ait pas de rapport entre les deux, de ces femmes qui vont échouer par la douleur, échouer par la souffrance. C'est-à-dire ne pas arriver à la subvertir. Là encore, je peux faire une association d'idées par rapport au début de notre conversation. Vous savez comment les Américaines, ça m'a frappé il y a quelques, c'est quand Harvey Weinstein était venu dans un club de, je sais plus, dans un club à New York pour passer la soirée, etc. Et les femmes qui se présentaient là avaient dit, mais c'est pas possible qu'il soit là, etc. Enfin, ça avait fait un petit scandale. Et c'était en écoutant cette histoire que j'avais découvert que les Américaines ne disent pas victime de viol, elles disent survivante. Et je voulais un jour souligner cela. Nous, on ne dit pas beaucoup survivantes, c'est plutôt ceux qui sont contre l'avortement qui disent qu'ils sont des survivants du génocide de l'avortement. Mais les Américaines, elles parlent de survivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'affirmation, et on est dans le plus et non pas dans le moins. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, par rapport à tout ce qui se passe dans l'art aussi. C'est-à-dire que les femmes de la deuxième moitié du XXe siècle ont vraiment réussi à être du point de vue de l'affirmation.
Et vous dites à propos des aventurières du cinéma qui ont ouvert la voie, je reboucle avec le début de notre entretien, vous dites qu'aujourd'hui on est entré dans un mouvement de contestation. Avant c'était quoi? C'était de la réaction? C'était
la résistance aussi. Vous croyez qu'elles n'ont pas résisté? Bien sûr que si, elles ont résisté. Il faut, je cite Ida Lupino qui va essayer qui fait des films d'ailleurs, et il y en a tant d'autres. Donc il y en a qui ont résisté. Maintenant c'est une dialectique. C'est tout. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Ben, je cite surtout aussi Colette qui se plaint que Mae West fonde parce qu'une starlette à Hollywood, elle sera mince et non pas un peu ronde comme l'était Mae West. Et alors c'est un texte de Colette magnifique, comme beaucoup de Colette, qui regrette l'évolution du cinéma. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que la femme repasse objet dans le cinéma. C'est pas pour ça qu'elle a pas résisté. Et c'est pas pour ça, moi je regarde beaucoup les films comme ça, les films des années 50, 60, 70, qu'ils mettent en scène des femmes qui résistent. Il ne faut pas avoir l'idée que du coup le cinéma n'a plus fait que des starlettes stupides, etc. Non, les récits, les histoires sont extrêmement intéressantes. Il y a un bon nombre d'histoires qui est donc écrites et réalisées par des hommes qui renvoient à comment une femme essaye d'être artiste. Et c'est difficile. Donc non, il y a toujours eu de la résistance.
Et aujourd'hui, il y a de la contestation qui se greffe sur la résistance.
Il y a même de la subversion.
Les créatrices dérangent l'ordre de la symbolique sexuelle. Voilà ce que vous racontez et expliquez très bien à travers cette histoire. Aussi, des femmes artistes, la suite de l'histoire, actrices, créatrices. Votre dernier ouvrage paru à la rentrée dernière, c'était Au Seuil. Et je recite donc... celui qui rassemble vos textes, vos concepts avec des angles très différents, féminisme et philosophie, Geneviève Fraisse, qui vient de paraître chez Folio Essai. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Oriane Delacroix, Bruno Barada et Henri Leblanc, à Laura Dutèche-Pérez avec l'aide précieuse de Philomène Villard et de Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Alex Dang, et à la vidéo, Swad Pokorsa. Merci à tous et bel après-midi sur France Culture.